Les aventures de la nuit de la Saint-Sylvestre. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Partie 2 sur 2. Chapitre 4. Histoire du reflet perdu. Enfin, le moment était arrivé où Erasme Spicker put accomplir le souhait de toute sa vie. Le cœur joyeux et la bourse bien garnie, il monta en voiture pour quitter le Nord, sa patrie, et pour aller chercher un climat plus doux sous le beau ciel de l'Italie. Sa bonne et pieuse femme répandit 1000 larmes. Elle prit son petit Erasme et, après lui avoir préalablement essuyé la bouche et mouché le nez, elle le leva dans la voiture afin que son père l'embrassât bien encore avant de partir. « Adieu, mon cher Erasme Spicker, » dit la femme en sanglotant. « Je garderai bien la maison, pense souvent à moi. » Reste fidèle et ne perds pas ton beau bonnet de voyage s'il t'arrive, selon ton habitude, de dormir la tête hors de la voiture. » Spicker lui promit toutes ces choses. Dans la belle ville de Florence, Erasme trouva quelques-uns de ses compatriotes, jeunes gens qui s'efforçaient de jouir de la vie et qui se plongeaient dans toutes les voluptés que ce délicieux pays procure en abondance. Il se fit connaître d'eux comme un bon compagnon, et bientôt il ne fut plus question parmi eux que de fêtes charmantes auxquelles Spicker donnait un relief tout particulier par sa bonne humeur et par le talent qu'il possédait de mêler la raison aux caprices les plus désordonnés de son imagination. Ainsi, advint-il que ces jeunes gens, Erasme, à peine âgé de 27 ans, pouvait bien faire nombre avec eux, donnèrent un soir une fête dans un jardin merveilleusement illuminé et dont les fleurs répandaient les plus doux parfums. Chacun, Erasme excepté, avait amené une aimable donna. Les hommes portaient l'ancien costume teuton, les dames, couvertes de riches vêtements, de couleurs, de formes différentes, semblaient, dans leurs toilettes capricieuses et fantastiques, autant de fleurs délicieuses. Si l'une ou l'autre venait de soupirer au doux murmure des mandolines quelques chansons d'amour en langue italienne, les hommes entonnaient en chœur une vigoureuse chanson de l'Allemagne et entrechoquaient leurs verres remplis d'un vin vieux de Syracuse. L'Italie n'est-elle pas le pays de l'amour? La brise du soir murmurait avec volupté, le parfum des orangers et des jasmins se répandait comme une musique tendre à travers tout le bosquet, se mêlant aux lutineries malicieuses et parfois un peu libres des beautés de l'Italie, les premières du monde à ce jeu. Le plaisir devenait de plus en plus vif et bruyant. Frédéric, le plus ardent de tous, se leva. D'un bras, il entourait la taille de sa donna, et de l'autre, tenant en l'air sa coupe remplie de vieux syracusains perlés, il s'écria. « Où trouvera-t-on le bonheur et les joies du ciel, si ce n'est auprès de vous, tendre et charmante femme de l'Italie? N'êtes-vous pas l'amour même? Mais toi, Erasme, » continua-t-il en se tournant vers Spicker, « tu ne parais pas sentir bien vivement ce que je dis, car non seulement en dépit de nos conventions de tout bon ordre et de toute galanterie, tu n'as invité à notre fête aucune donna, mais encore, tu es aujourd'hui si mat et si replié sur toi-même que je serais tenté de croire, si tu n'avais tout à l'heure bravement bu et chanté, que tu as été transformé tout à coup en un misanthrope atrabilaire et ennuyeux, qui plus est. » « Je t'avouerai, Frédéric, » reprit Erasme, « que je ne puis me réjouir avec vous de cette manière. Tu sais que j'ai laissé dans ma patrie une bonne, une excellente épouse que j'aime de tout mon cœur et envers laquelle je me rendrais coupable d'une trahison manifeste si, partageant vos folies, je me choisissais une donna, même pour une seule soirée. Pour vous, jeune célibataire, c'est tout autre chose, mais moi, père de famille. » Les jeunes gens éclatèrent de rire. Quant à ce mot de père de famille, Erasme s'efforça de donner un air de gravité à sa figure jeune et enjouée, ce qui produisit un effet assez drôle. La donna de Frédéric se fit traduire en italien ces mots qu'Erasme venait de prononcer en allemand. Puis, elle lança sur Spiker un regard sérieux, et le menaçant de son doigt levé, elle dit « Va, va, froid allemand. Tiens bien ton cœur à deux mains. Tu n'as pas encore vu Giulietta. » En ce moment, un léger bruit se fit entendre à l'entrée du bosquet. Et du sein de la nuit sombre, on vit s'avancer à la lueur des bougies une femme merveilleusement belle. Sa robe blanche qui ne cachait qu'à demi sa gorge, ses épaules et son dos, et dont les vastes manches descendaient sur le coude, retombait jusqu'à terre en plis larges et nombreux. Ses cheveux, séparés sur le front, étaient disposés avec profusion sur le derrière de la tête. Des chaînes d'or autour de son cou, de riches bracelets, complétait la parure antique de la belle dame qui ressemblait à un portrait de Rubens ou du délicat Mieris. « Giulietta !» s'écrièrent les jeunes filles charmées. Giulietta, dont la beauté angélique les faisait toutes pâlir, dit d'une voix douce « Laissez-moi prendre part à votre belle fête, braves jeunes gens de l'Allemagne. Je veux aller m'asseoir près de celui-là, qui est seul parmi vous sans plaisir et sans amour. » Elle s'approcha d'Erasme avec une grâce charmante et s'assit sur le fauteuil qui était resté vide à côté de lui, par suite de la convention qui avait été faite qui l'amènerait une dame. Les jeunes filles chuchotaient entre elles. « Voyez donc, voyez comme Giulietta est belle aujourd'hui !» Et les jeunes gens disaient « Qu'est-ce donc que cela ? Erasme a fait la plus belle conquête et s'est encore moqué de nous ?» Au premier coup d'œil qu'il avait jeté sur Giulietta, Erasme s'était trouvé dans une disposition d'esprit si singulière qu'il ne savait lui-même quel mouvement tumultueux s'élevait dans son âme. Quand elle s'approcha de lui, une puissance inconnue le saisit, comprima sa poitrine. Il ne pouvait respirer. L'œil fixé sur Giulietta, les lèvres pâles et entr'ouvertes, il était assis là, ne pouvant proférer une parole, tandis que ses compagnons vantaient à haute voix la grâce et la beauté de l'étrangère. Giulietta prit une coupe pleine, se leva et la présenta d'un air riant et doux à Erasme. En saisissant la coupe, il toucha légèrement les doigts délicats de Giulietta. Il buvait, le feu circulait dans ses veines. Giulietta lui demanda en plaisantant « Voulez-vous que je sois votre donna ?» Mais Erasme se jeta comme un insensé aux pieds de Giulietta, prit ses deux mains, les pressa contre son cœur et s'écria « Oui, c'est toi que j'ai toujours aimé, toi, ange du ciel, je t'ai vu dans mes rêves, tu es ma vie, mon bonheur, ma pensée !» Tous pensèrent, en voyant le pauvre Erasme, que le vin lui était monté à la tête, car il ne l'avait jamais vu dans cet état, il semblait un tout autre homme. « Oui, oui !» Toi, toi seul et ma vie, tu brûles en moi comme un feu dévorant. Laisse-moi périr, périr, je ne veux être qu'en toi, je ne veux être que toi. » Ainsi criait Erasme. Mais Giulietta l'entoura de ses bras. Plus tranquille, il s'assit à ses côtés et bientôt recommencèrent les jeux et les chansons folâtres qu'Erasme et Giulietta avaient interrompues. Quand elle chantait, on croyait entendre sortir du fond de son âme des sons célestes. Et tous ressentaient un bonheur qu'ils n'avaient jamais connu, qu'ils avaient tout au plus rêvé. Sa voix, pleine et cristalline, portait avec elle un feu sacré qui pénétrait dans tous les cœurs. Chaque jeune homme tenait sa donna plus fortement embrassée. Les regards se cherchaient et se rencontraient, plus brûlants que jamais. Déjà une lueur rougeâtre annonçait le retour de l'aurore quand Giulietta donna le conseil de terminer la fête. On le suivit. Erasme offrit de reconduire Giulietta, elle le refusa et lui désigna la maison où il pourrait la trouver dorénavant. Pendant le chœur allemand, que les jeunes entonnèrent pour clore la fête, Giulietta avait disparu du bosquet. On la vit, précédée de deux domestiques qui portaient des flambeaux passés au loin dans une allée de verdure. Erasme n'osa point la suivre. Chacun prit alors le bras de sa donna et ils s'éloignèrent en pleine gaieté. Plein de troubles et le cœur en proie à tous les tourments de l'amour, Erasme les suivit de loin, accompagné seulement de son petit domestique qui portait une torche. Ses amis l'avaient quitté. Il marchait le long d'une rue écartée qui conduisait à sa demeure. L'aurore brillait dans le ciel, le domestique écrasa sa torche sur le pavé, mais au milieu des étincelles qui en jaillirent, Erasme aperçut tout à coup, à deux pas de lui, une singulière figure. C'était un homme grand et maigre, le nez crochu comme celui d'un épervier, les yeux flamboyants, la bouche ironiquement contractée, vêtu d'un habit rouge de feu avec des boutons d'acier rayonnants. Il rit et s'écria d'une voix glapissante et désagréable « Oh oh, vous êtes probablement sorti de quelque vieux livre d'estampes avec votre manteau, votre pourpoint fendu et votre barrette à plumes. Vous avez l'air tout drôle, messire Erasme, mais voulez-vous rester dans la rue et devenir la risée des gens? Retournez bien tranquillement dans votre tome de parchemin. » Que vous importe mon habit ? Dit Erasme mécontent. Il repoussa le drôle rouge et voulut passer son chemin, mais l'autre lui cria « Eh bien, ne courez pas si vite. À l'heure qu'il est, vous ne pouvez pas vous présenter chez Giulietta. » Erasme se retourna vivement. « Que parlez-vous de Giulietta ? » s'écria-t-il avec véhémence, et il saisit le drôle rouge à la poitrine. Celui-ci se dégagea promptement et, avant qu'Erasme s'en fût douté, il avait disparu. Erasme resta tout penaud, tenant à la main un bouton d'acier qu'il avait arraché de l'habit rouge. C'était le docteur au prodige, le signor d'Apertuto. Que diable voulait-il de vous ? Dit le domestique. Mais Erasme fut saisi d'horreur et courut à son logis. Giulietta reçut Erasme avec la grâce et l'amabilité qui lui étaient particulières. À la passion insensée que lui témoignait Erasme, elle opposait une humeur douce et toujours égale. Seulement, parfois, ses yeux brillaient d'un éclat plus vif et Erasme sentait de légers frissons courir par tout son corps quand elle lui lançait d'étranges regards. Jamais elle ne lui dit qu'elle l'aimait, mais toute sa conduite envers lui le prouvait clairement. Et ainsi se resserraient de plus en plus les liens qui l'enchaînaient. Un jour pur, un vrai jour de soleil se levait pour lui. Il ne voyait que rarement ses amis car Giulietta l'avait entraîné dans une société toute différente. Un jour, il rencontra Frédéric, qu'il ne voulut point le quitter. Et quant au souvenir de sa patrie et de sa maison, Erasme eut donné des signes d'un profond attendrissement, Frédéric lui dit « Sais-tu bien, Spiker, que tu as fait une connaissance dangereuse ? Tu n'ignores pas sans doute que ta belle Giulietta est une des courtisanes les plus rusées qui ait jamais existé. On raconte d'elle toutes sortes d'histoires étranges et mystérieuses qui jettent sur elle un jour fort singulier. On dit qu'elle exerce sur les hommes un pouvoir irrésistible, qu'elle les entoure de liens que rien au monde ne peut briser. Et tu en es la preuve. Tu es entièrement changé, tu es tout dévoué à la sirène Giulietta et tu ne songes plus à ta bonne et pieuse femme. » Erasme se cacha le visage de ses deux mains, il sanglota tout haut et prononça plusieurs fois le nom de son épouse. Frédéric s'aperçut qu'un combat se livrait dans son cœur. « Spiker, continua-t-il, partons promptement. » « Oui, Frédéric, s'écria vivement Spiker. Tu as raison, je ne sais quel noir et affreux pressentiment s'empare de moi tout à coup. Il faut que je parte aujourd'hui. » Les deux amis traversaient rapidement la rue. À leur rencontre vint le signor d'Apertuto, qui rit au nez d'Erasme et s'écria « Ah ! Courez vite, Giulietta vous attend, le cœur brûlant de désir, les yeux pleins de larmes. Courez vite, courez vite !» Erasme fut comme frappé de la foudre. « Ce maraud !» reprit Frédéric. « Ce charlatano, je le hais de toute mon âme. Et que cet homme fréquente Giulietta et lui vende ses essences merveilleuses !»« Comment ?» s'écria Erasme. « Ce misérable voit Giulietta ?»« Giulietta ? Où donc êtes-vous resté si longtemps ? tout le monde vous attend. N'avez-vous donc pas du tout songé à moi ? Dit une voix douce du haut du balcon. C'était Giulietta, devant la maison de laquelle les deux amis s'étaient arrêtés sans s'en apercevoir. D'un saut, Erasme fut dans la maison. Il est décidément incurable, dit tout bas Frédéric, et il s'esquiva le long de la rue. Jamais Giulietta n'avait été plus aimable. Elle était vêtue de même que la première fois dans le jardin et brillait de tout l'éclat de sa beauté et de sa fraîcheur. Erasme avait oublié entièrement l'entretien qu'il venait d'avoir avec Frédéric. Plus que jamais, il se sentit entraîné par un transport, un ravissement irrésistible. Mais jamais aussi Giulietta n'avait laissé entrevoir ainsi, sans aucune réserve, tout l'amour qu'il lui inspirait. Elle semblait ne voir que lui, n'exister que pour lui. Il était question de célébrer une fête à une villa que Giulietta avait louée pour la belle saison. On s'y rendit. Parmi la société se trouvait un jeune Italien, d'une figure hideuse et de mœurs plus hideuses encore. Il était fort empressé auprès de Giulietta et provoqua la jalousie d'Erasme, qui, plein de dépit, s'éloigna des autres et alla se promener dans une allée solitaire du jardin. Giulietta fut le trouver. Qu'as-tu donc ? N'es-tu pas entièrement à moi ? À ces mots, elle l'entoura de ses bras voluptueux et pressa un baiser sur ses lèvres. Un torrent de feu parcourut tout son corps. Dans le délire de la passion, il serra sa bien-aimée contre son cœur et s'écria « Non, je ne te quitterai pas. Tu sais, je périr de la mort la plus affreuse. » Giulietta sourit d'une manière singulière et lança sur lui ce regard étrange qui lui avait toujours fait éprouver un tressaillement intérieur. Ils retournèrent vers la société. L'odieux Italien joua à son tour le rôle d'Erasme. Excité par la jalousie, il tint plusieurs propos offensants sur les Allemands et surtout contre Spiker. Ce dernier ne put se contenir plus longtemps. Il s'avança rapidement vers l'Italien. « Cessez !» dit-il. « Vos misérables sarcasmes contre les Allemands et contre moi, ou je vous jette dans cet étang où vous pourrez vous exercer à la nage !» Dans ce moment, un poignard brilla dans la main de l'Italien, mais Erasme furieux le saisit à la gorge et le terrassa. Il lui appliqua un coup de pied violent sur la nuque et l'Italien rendit, en râlant, le dernier soupir. Tous se jetèrent sur Erasme. Il avait perdu connaissance, on le saisit, on l'entraîna. Lorsqu'il se réveilla comme d'un profond assoupissement, il était dans un petit cabinet à genoux devant Giulietta qui, la tête penchée sur lui, le tenait enlacé dans ses deux bras. « Méchant, méchant Allemand, » dit-elle d'une voix infiniment douce. « Quelle frayeur tu m'as causée ! Je t'ai sauvé du danger le plus pressant, mais tu n'es plus en sûreté à Florence en Italie. Il faut que tu partes, il faut que tu me quittes, moi qui t'aime tant. » Cette idée de séparation plongea Erasme dans un abîme de douleur et de désespoir. « Je veux rester !» s'écria-t-il. « Je consens volontiers à mourir. Ne vaut-il pas mieux mourir que de vivre sans toi ?» Il lui sembla en ce moment qu'une voix faible et lointaine prononçait son nom. Et hélas, c'était la voix de sa pieuse épouse. Erasme resta muet et Giulietta lui demanda d'un ton singulier. « Tu penses sans doute à ton épouse. Et hélas, Erasme, tu ne m'oublieras que trop tôt. »« Plutôt ciel, » dit Erasme, « que je fusse à toi entièrement et sans retour. » Ils étaient debout précisément devant une grande glace, éclairée de deux côtés par des bougies étincelantes. Giulietta serra Erasme plus vivement contre son sein et dit à voix basse « Laisse-moi ton image réfléchie par ce miroir, ô mon bien-aimé, elle ne me quittera jamais. » « Giulietta, » dit Erasme tout étonné, « que veux-tu dire, mon reflet au miroir ?» À ces mots, il regarda dans la glace qui lui renvoyait son image et celle de Giulietta, confondue dans une amoureuse étreinte. Comment donc espères-tu retenir mon reflet qui m'accompagne en tout lieu et qui s'offre à moi dans chaque source limpide, dans chaque surface polie ? Reprit Erasme. Tu ne m'accordes pas même ce rêve de ton moi tel qui brille dans cette glace ? Dit Giulietta. Toi qui voulais être à moi corps et âme, tu ne veux même pas que ton image reste avec moi et m'accompagne à travers les misères de cette vie qui sera, dorénavant, je le sens bien, sans plaisir et sans amour, puisque tu m'abandonnes. » Un torrent de larmes brûlantes tomba des beaux yeux noirs de Giulietta. Alors, Erasme s'écria, transporté de douleur et d'amour.
« Faut-il donc que je te quitte ? Eh bien, que mon reflet t'appartienne à jamais !» Aucune puissance, le diable même, ne saurait te l'enlever jusqu'à ce que tu me possèdes entièrement, corps et âme.
Les baisers de Giulietta brûlaient sur ses lèvres lorsqu'il eut prononcé ces paroles. Alors, elle cessa de le retenir et étendit passionnément ses bras vers le miroir. Erasme vit son image se reproduire indépendante de ses mouvements. Il la vit passer dans les bras de Giulietta et disparaître avec elle au milieu d'une vapeur bizarre. Toutes sortes de voix détestables chevrotaient et riaient d'un ton infernal. Saisi d'une horreur profonde, il tomba sans connaissance. Mais un sentiment affreux d'anxiété et d'effroi le retira de sa stupeur. Dans une obscurité complète, il sortit en chancelant et descendit l'escalier. Arrivé devant la maison, on s'empara de lui et on le plaça dans une voiture qui s'éloigna rapidement. « Monsieur a été un peu ému à ce qu'il paraît, » dit en allemand l'homme qui s'était assis près de lui. « Monsieur a été légèrement ému, mais tout ira pour le mieux, si vous vous abandonnez entièrement à moi. La petite Giulietta a fait tout ce qu'elle devait et m'a recommandé de bien veiller sur vous. Vous êtes d'ailleurs un aimable jeune homme et vous avez un goût décidé pour toutes sortes de bonnes petites plaisanteries. » Telles que Giulietta et moi les aimons. Il faut convenir que c'était un vrai coup de pied d'allemand qu'il a reçu dans la nuque. Pauvre signor amoroso, la langue lui sortait du cou, bleu comme une cerise. C'était fort drôle à voir. Et puis comme il croassait et gémissait, il ne pouvait s'en aller assez vite à tous les diables. La voix de cet homme était si détestablement moqueuse, son galimatias si effroyable, que toutes ses paroles pénétraient dans le cœur d'Erasme comme autant de coups de poignard.
« Qui que vous soyez, dit Erasme, ne me parlez plus de cette horrible action dont j'éprouve le plus sincère repentir. »«
Repentir, repentir, continua cet homme. Vous vous repentez donc aussi d'avoir connu Giulietta et d'avoir su toucher son cœur ?»
Giulietta, Giulietta, soupira Erasme.
Voilà, reprit cet homme, voilà comment vous êtes enfant. Vous souhaitez et vous voudriez bien, mais il faut d'autre part, selon vous, que tout se passe tranquillement et dans les formes. Il est fatal, sans doute, qu'il vous ait fallu quitter Giulietta, mais je pourrais bien, si vous restiez, vous soustraire au poignard de tous vos persécuteurs et même aux griffes de notre chère justice. La pensée de pouvoir rester auprès de Giulietta s'empara puissamment d'Erasme.
« Comment pourrais-tu faire ce que tu promets ? » demanda-t-il.
« Je connais, » continua cet homme, « un moyen sympathique qui doit frapper de cécité vos persécuteurs et vous faire apparaître chaque fois avec un visage différent, de sorte qu'ils ne vous reconnaissent jamais. » Dès qu'il fera jour, vous aurez la bonté de regarder longtemps et bien attentivement dans un miroir. Puis, sans l'endommager le moins du monde, je soumettrai votre reflet à certaines opérations et vous serez bien caché. Vous pourrez alors vivre dans les plaisirs avec Giulietta sans courir aucun danger.
Terrible, terrible ! S'écria Erasme.
Qu'y a-t-il de si terrible, mon ami ? Demanda cet homme, ironiquement.
Hélas, je... balbutia Erasme.
Vous avez laissé votre reflet, interrompit vivement cet homme. Vous l'avez laissé à Giulietta. Bravissimo, mon cher. Vous pouvez maintenant parcourir les campagnes, les forêts, les villes et les hameaux, jusqu'à ce que vous ayez retrouvé votre épouse et votre petit Erasme, et que vous soyez redevenu père de famille, quoique son reflet au miroir, ce qui du reste n'inquiétera pas singulièrement votre femme puisqu'elle vous possédera corporellement. Tandis que Guliette n'aura qu'un rêve brillant de votre moi.
« Tais-toi, homme exécrable !» s'écria Erasme.
En ce moment, une troupe joyeuse et chantant passa près d'eux avec des torches qui éclairèrent un instant l'intérieur de la voiture. Erasme regarda la figure de son compagnon et reconnut l'odieux docteur d'Apertuto. D'un bond, il s'élança hors de la voiture et courut vers la troupe, car de loin, il avait reconnu la basse-taille sonore de Frédéric. Les amis revenaient de dîner à la campagne. Erasme informa en peu de mots Frédéric de ce qui venait de se passer. Seulement, il lui cacha la perte de son reflet. Frédéric laissa ses amis et courut avec lui à la ville. Tous les préparatifs nécessaires furent faits avec tant de promptitude qu'au lever de l'aurore, Erasme, pressant les flancs d'un coursier rapide, était déjà loin de Florence. Spiker a noté plusieurs des aventures de son voyage. La plus remarquable est l'accident qui lui fit sentir pour la première fois, d'une manière bien étrange, la perte de son reflet. Il s'était arrêté un jour dans une grande ville parce que son cheval avait besoin de repos. Et il s'assit, sans défiance, à la table d'eau très nombreuse, ne remarquant pas qu'en face de lui se trouvait un beau et grand miroir. Un infernal sommelier, qui se tenait derrière sa chaise, s'aperçut que de l'autre côté, dans le miroir, la chaise paraissait vide et que rien ne se reflétait de la personne qui l'occupait. Il communiqua son observation au voisin d'Erasme, celui-ci au suivant. Un murmure et un chuchotement s'éleva autour de la table. On regardait Erasme, puis le miroir. Erasme ne s'était pas encore aperçu qu'il était question de lui lorsqu'un homme se leva de la table, le conduisit devant la glace, y jeta les yeux et se tournant vers la société s'écria tout haut « Vraiment, il n'a pas de reflet, il n'a pas de reflet, il n'a pas de reflet » criait-on à tort et à travers. « C'est un mauvais sujet, un homo néfaste, qu'on le mette à la porte !» Dévoré de rage et de honte, Erasme se sauva dans sa chambre, mais à peine y fut-il entré qu'on lui vint signifier, de par la police, qu'il eut à se présenter dans l'espace d'une heure devant l'autorité, avec son reflet intact et parfaitement ressemblant, sinon qu'il eût à quitter la ville. Il partit, poursuivi par la canaille oisive et par les polissons des rues qui criaient derrière lui. « Le voilà qui s'en va, celui qui a vendu son reflet au diable !»« Le voilà qui s'en va !» Enfin, il se retrouva en plein air. Depuis ce temps, il faisait voiler les miroirs, partout où il arrivait, prétextant une horreur invincible pour toutes les surfaces polies, ce qui lui fit donner par dérision le surnom du général Suvaro, qui avait la même manie. Quand il revint dans sa patrie, son excellente femme et le petit Erasme le reçurent avec joie. Et bientôt, il crut que dans le sein d'un ménage paisible, il supporterait aisément la perte de son image. Il arriva qu'un jour, Spiker, qui avait entièrement oublié la belle Giulietta, jouait avec le petit Erasme. L'enfant avait les mains pleines de suie et il embarbouilla le visage de son père. « Ah, papa, papa, vois donc comme je t'ai noirci !» L'enfant dit et courut chercher un miroir qu'il présenta à son père en y jetant les yeux lui-même. Mais il laissa tomber aussitôt le miroir en pleurant et courut hors de la chambre. Bientôt, sa mère entra, l'étonnement et la terreur sur le visage. « Que vient de me dire le petit Erasme ? » s'écria-t-elle. « Que je n'ai pas de reflet, n'est-ce pas, ma bonne amie ? » reprit Spiker avec un sourire forcé. Et il s'efforça de prouver qu'il était, à la vérité, absurde de croire que l'on puisse perdre son reflet, mais que, le cas échéant, ce n'était pas une grande perte, parce que tout reflet n'est qu'une illusion, parce que la contemplation de soi-même conduit droit à la vanité, et parce qu'enfin une semblable image divise le véritable moi en deux parties, vérité et songe. Tandis qu'il parlait ainsi, sa femme avait arraché, de dessus un miroir suspendu dans la chambre, le voile qui le couvrait. Elle y jeta les yeux, et comme frappée de la foudre, elle tomba par terre. Spiker la releva. Mais à peine eut-il repris connaissance qu'elle le repoussa avec horreur.
« Laisse-moi » s'écria-t-elle. « Laisse-moi, homme affreux, ce n'est pas toi, tu n'es pas mon mari. Non, tu es un esprit de l'enfer qui en veut à mon salut éternel, qui veut me perdre. Laisse-moi, laisse-moi, maudit !»
Sa voix retentissait à travers sa chambre, à travers le salon. Les gens de la maison accoururent épouvantés, pleins de rage et de désespoir. Erasme s'enfuit de sa demeure. Entraîné par son aveugle fureur, il parcourut les allées solitaires d'un parc situé hors de la ville. La figure de Giulietta s'éleva de terre devant lui, belle comme les anges. Il s'écria « Est-ce ainsi que tu te venges, Giulietta, de ce que je t'ai quitté, de ce qu'au lieu de moi-même je ne t'ai donné que mon reflet ?» Ah, Giulietta, je consens à t'appartenir corps et âme. Elle m'a repoussée, elle à qui je t'ai sacrifié. Giulietta, Giulietta, je suis à toi.
Rien de plus facile, mon cher, dit le seigneur d'Apertuto, qui se trouva subitement devant lui, avec son habit rouge et ses boutons d'acier.
Ces paroles étaient une consolation pour le malheureux Erasme. Aussi ne remarqua-t-il point la figure ironique et méchante de Tapertuto. Il s'arrêta et demanda tristement
« Comment pourrais-je donc la retrouver? N'est-elle pas jamais perdue pour moi ?»«
En aucune façon, » reprit Tapertuto. « Elle n'est pas loin d'ici et soupire prodigieusement après votre chère personne, très honoré monsieur, car vous le voyez bien vous-même, un reflet n'est qu'une pitoyable illusion. » D'ailleurs, dès qu'elle se sera assurée de votre chère personne, en corps et en âme, bien entendu, elle vous rendra avec reconnaissance votre agréable reflet, toujours poli comme devant, et parfaitement intact.
« Courons, courons !» s'écria Erasme. « Où est-elle ? »
« Il ne faut plus qu'une petite formalité, » reprit Dapertuto.
Avant de voir Giulietta et de vous livrer entièrement à elle en échange de votre reflet, votre seigneurie n'est pas libre de disposer entièrement de sa précieuse personne, car elle est encore retenue par certains liens qu'il faut dissoudre avant tout. Votre chère épouse et monsieur votre fils.
Que voulez-vous dire ?
S'écria violemment Erasme.
On pourrait, dis-je, si vous le souhaitez. Continua Dapertuto, on pourrait opérer la dissolution des liens susdits par des moyens tout à fait simples et humains. À Florence, déjà, vous saviez que je prépare avec beaucoup d'adresse des médicaments merveilleux, et j'ai là sous la main un de ces petits remèdes de famille. Il suffit d'en faire prendre quelques gouttes à ceux qui sont un mur entre vous et Giulietta pour qu'ils tombent sans proférer une parole et sans donner aucun signe de douleur. Sans doute on appelle cela mourir, et la mort est, dit-on, amère, mais le goût d'amande amère n'est-il pas fort agréable? Eh bien, la mort que renferme ce flacon n'a pas d'autre amertume que celle-là. Aussitôt, après son paisible trépas, votre respectable famille répandra une odeur agréable d'amande amère. Prenez, très honoré monsieur. Il présenta une petite fiole à Erasme.
Homme exécrable ! S'écria celui-ci. Tu veux que j'empoisonne ma femme et mon enfant ?
Qui donc vous parle de poison ? Reprit le drôle rouge.
Cette fiole ne contient qu'un petit remède de famille, d'une odeur exquise. J'aurai à ma disposition d'autres moyens de vous rendre la liberté, mais j'aimerais agir par vous-même, tout naturellement, tout humainement. Que voulez-vous ? C'est là ma fantaisie. « Prenez confiance, prenez, mon cher. »
Erasme tenait la fiole entre ses mains. Il ne savait lui-même comment elle y était venue. Il courut, sans réflexion, chez lui, dans sa chambre. Sa femme avait passé toute la nuit en proie à l'inquiétude, aux tourments les plus affreux. Elle soutenait continuellement que celui qui était venu n'était pas son mari, mais un esprit infernal qui avait pris sa figure. Au moment où Spiker entra dans la maison, tous ses gens s'enfuirent épouvantés. Le petit Erasme seul osa s'approcher de lui et lui demander d'un ton enfantin pourquoi il n'avait pas rapporté son reflet. Sa mère, disait-il, en mourait de chagrin. Erasme fixa le petit d'un air sombre. Il tenait encore à la main la fiole de Tapertutto. L'enfant portait sur son bras la colombe favorite qui s'approcha de la fiole et se mit à en becqueter le bouchon. Aussitôt, elle pencha la tête. Elle était morte. Erasme se leva, saisi d'horreur. « Traître ! » s'écria-t-il. « Tu ne me feras pas commettre ce crime !» Il jeta par la fenêtre sa fiole qui se brisa sur le pavé de la cour. Un goût agréable d'amande amère s'éleva et se répandit dans l'appartement. Le petit Erasme, effrayé, avait pris la fuite. Spiker passa dans les tourments la journée entière, jusqu'à minuit. C'était l'heure où l'image de Giulietta se retraçait toujours plus vivement à son âme. Un jour, un collier de Giulietta, fait avec ses petites baies rouges que les femmes portent en guise de perles, s'était rompu en sa présence. En ramassant les baies, il en cacha une parce qu'elle avait touché le goût de Giulietta. Depuis lors, il l'avait fidèlement conservée. C'est cette baie qu'il tira en ce moment de son sein. Et, la regarda fixement, il pensait de toutes les forces de son esprit à sa bien-aimée qu'il ne devait plus voir. Il semblait alors qu'il sortit de la perle le même parfum magique qui lui révélait autrefois la présence de Giulietta. Ah, Giulietta, te voir une seule fois et mourir! À peine eut-il prononcé ces paroles qu'un murmure et un bruissement singulier se fit entendre dans le corridor. Il distingua des pas. On frappait à la porte. Agité par la crainte et l'espérance, il respirait à peine. Il ouvrit. Giulietta se présenta devant lui, plus belle, plus séduisante que jamais. Ivre d'amour, il la pressait dans ses bras. « Me voici, mon bien-aimé, » dit-elle d'une voix douce et faible. « Vois comme j'ai fidèlement conservé ton reflet. » Elle enleva le voile qui couvrait le miroir. Et Erasme, enchanté, vit son image qui se serrait contre Giulietta. Mais, indépendante de lui-même, elle ne reproduisait aucun de ses mouvements. Il frissonna. « Giulietta, s'écria-t-il, veux-tu donc que mon amour pour toi trouble ma raison ? Rends-moi mon reflet, ou plutôt empare-toi de moi tout entier, dans ce monde et dans l'autre. « Il y a encore un obstacle entre nous, cher Erasme, » dit Giulietta. « Tu le sais bien, Tapertutto ne te l'a-t-il pas dit ?»« Pour Dieu, Giulietta !» s'écria Erasme. « Si je ne puis être à toi que par ce moyen, j'aime mieux mourir. » « Aussi, » continua Giulietta, « je ne veux pas que Tapertutto t'engage plus longtemps à commettre une action qui te répugne. Il est fâcheux, sans doute, qu'un vœu et la bénédiction d'un prêtre soient si puissants, mais il faut que tu brises le lien qui t'enchaîne. Sans cela, tu ne seras jamais entièrement à moi. Mais il existe encore un moyen meilleur que celui proposé par Tapertutto. Ce moyen, quel est-il ? Demanda vivement Erasme. Giulietta jeta un bras autour de son cou, et appuyant sa tête sur la poitrine de son amant, elle murmura à voix basse. « Tu écriras sur une feuille de papier ton nom, Erasme Spiker, sous ce peu de paroles. Je donne à mon bon ami Tapertutto tout pouvoir sur ma femme et sur mon enfant, afin qu'il en dispose à son gré et qu'il brise le lien qui m'attache à eux, parce que je veux que dorénavant mon corps et mon âme immortels appartiennent à Giulietta, que j'ai choisie pour épouse et à laquelle je m'unirai encore par un vœu particulier. » Tous les nerfs d'Erasme palpitèrent, des baisers de feu brûlaient ses lèvres. Il tenait à la main la feuille de papier que lui avait donnée Giulietta. Tout à coup, Tapertutto, haut comme un géant, se tint derrière l'enchanteresse et offrit à Erasme une plume de métal. Une petite artère s'ouvrit sur le bras gauche d'Erasme, un jet de sang jaillit. « Trempe-la dans le sang, trempe, écris, écris !» croissait le drôle rouge. « Écris, écris, mon bien-aimé !» soupira Giulietta. Déjà, il avait trempé la plume dans le sang, déjà, il l'a posée sur le papier pour écrire. Soudain, la porte s'ouvre, une figure blanche s'avance. Fixant sur Erasme ses yeux de fantôme, elle s'écrie douloureusement et d'une voix sourde « Erasme,
Erasme, que fais-tu? Au nom du Sauveur, renonce à cette action criminelle.
Erasme, qui dans cette figure menaçante avait reconnu sa femme, jeta loin de lui la feuille et la plume.
Les yeux de Giulietta lançaient des éclairs, son visage se contractait horriblement, tout son corps n'était que feu et flamme.
« Laisse-moi, fille de l'enfer, tu n'as point de part à mon âme. Au nom du Sauveur, laisse-moi, serpent, tout l'enfer brûle en toi !»
Ainsi s'écria Erasme, et d'un bras vigoureux, il repoussa Giulietta qui le tenait toujours embrassé. Alors, on entendit hurler et glapir en dissonance affreuse, et ce fut par toute la chambre un murmure pareil au bruissement des noires ailes d'une légion de corbeaux. Giulietta, d'Apertuto, disparurent dans une vapeur épaisse et infecte qui semblait sortir des murs et qui éteignit les lumières. Enfin, les rayons de l'aurore pénétrèrent à travers les fenêtres. Erasme courut trouver sa femme. Il la trouva pleine de calme et de douceur. Le petit Erasme, déjà tout éveillé, était assis sur le lit de sa mère. Elle tendit la main à son mari, épuisé de fatigue, et lui dit « Je sais maintenant tout ce qui t'est arrivé de malheureux en Italie et te plains de tout mon cœur. La puissance de l'ennemi est grande et comme il est adonné à tous les vices, il est aussi voleur de son métier. » Et n'a pu résister au malin désir de te dérober ton reflet. Mais regarde dans ce miroir-là, mon cher époux. » Spiker obéit d'un air bien piteux et tremblant de tout son corps. Le miroir resta clair et poli. On n'y voyait point d'Erasme Spiker. « Pour cette fois, continua la femme, il est fort heureux que la glace ne réfléchisse pas ton image. Car tu as l'air bien sot, mon cher Erasme. Tu conçois d'ailleurs aisément que, sans reflet, tu seras la risée de tout le monde, que tu ne peux pas être un père de famille complet et dans les formes, capable d'inspirer du respect à sa femme et à ses enfants. Le petit Erasme se moque déjà de toi et dit qu'il veut te faire une moustache avec du charbon, puisque tu ne peux pas t'en apercevoir. Parcours donc le monde pendant quelque temps encore et tâche, par la même occasion, de reprendre au diable ton reflet. Quand tu l'auras retrouvé, tu seras le bienvenu. Embrasse-moi. » Spiker l'embrassa. Et maintenant, bon voyage. Envoie de temps en temps une paire de culottes neuves à ton petit Erasme, car il a l'habitude de se traîner sur les genoux et il en use considérablement. Si tu passes à Nuremberg, n'oublie pas d'y joindre un beau hussard et un pain d'épices, ainsi qu'il convient à un bon père. Adieu, cher Erasme. « Porte-toi bien !» Elle se tourna du côté de la muraille et s'endormit. Spiker prit le petit Erasme et le serra contre son cœur. Mais l'enfant se mit à crier si fort que son père le replaça sur le lit et s'en alla courir le monde. Il rencontra un jour un certain Pierre Schlemihl qui avait vendu son ombre. Tous deux voulurent voyager de compagnie de manière qu'Erasme Spiker eût jeté l'ombre nécessaire, tandis que Pierre Schlemihl eût fourni le reflet pour deux, mais il n'en fut rien. Post-scriptum du voyageur enthousiaste. Quelle image se dessine dans ce miroir? Est-ce bien la mienne? Ô Julie, Giulietta, ange du ciel, esprit de l'enfer, extase et torture, désir et désespoir. Tu vois, mon cher Théodore Amadeus Hoffmann, qu'une puissance obscure, étrangère, entre dans ma vie, trop souvent hélas pour mon repos, et privant mon sommeil de ses rêves les plus doux, jette sur mon chemin d'étranges figures. Plein encore des apparitions de la nuit de Saint-Sylvestre, je suis bien tenté de croire que le conseiller de justice était vraiment une poupée de sucre candi, tout son cercle, un étalage pour la foire de Noël ou pour le Nouvel An, et l'aimable Julie, enfin, ce portrait séduisant de Rembrandt ou de Callot, qui priva de son reflet le pauvre Erasme Spiker. Daigne me le pardonner.